Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 16 février, nous reviendrons sur la pollution aux particules fines, les mesures reconduites. Nouvelle journée de mobilisation ce jeudi à Lyon contre la réforme des retraites. Des urgences qui vont devoir fermer, faute de personnel, c'est à l'hôpital Porte du Sud à Vénissieux, le groupement hospitalier et mutualiste. Le groupe socialiste à la région saisit la justice pour obtenir les réponses de Laurent Wauquiez à propos du dîner des sommets. L'accident de voiture de Pierre Palmade, alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne, a remis sur la table un sujet de santé publique, celui des drogues et notamment celui du chemsex. Notre invité pour en parler est Yann Botrel, hypnothérapeute spécialisé en addictologie. Et puis en basket, en Coupe de France, l'ASVEL se qualifie sur le fil face à la Chorale de Roanne.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'interdiction des véhicules critères 3 et 4 est donc maintenue ce jeudi en raison de la pollution aux particules fines. La qualité de l'air reste encore mauvaise. Le Rhône est toujours en vigilance rouge selon Atmo. Seuls les véhicules affichant un certificat qualité de l'air vignette critère de classe 0 émission moteur, de classe 1 ou 2 sont autorisés à circuler au sein de la ZFE, la zone à faible émission de la métropole de Lyon. Une dérogation pour les voitures particulières transportant 3 personnes au moins est mise en place. La vitesse sur les voies rapides est toujours abaissée de 20 km/h. Cet épisode de pollution est essentiellement dû aux particules PM2.5 et PM10 émises par le chauffage, particulièrement le chauffage au bois, qui, les jours de grand froid, peut être à l'origine de 80% des émissions. Nouvelle journée de mobilisation ce jeudi à Lyon contre la réforme des retraites. Le rassemblement est prévu à 14h à la manufacture des tabacs. La dernière manifestation avait réuni 35 000 manifestants selon les syndicats, 16 000 selon la police. La SNCF a annoncé un trafic TER fortement perturbé dans toutes les régions aujourd'hui, avec un train sur deux en moyenne. Plus de deux trains sur trois doivent circuler côté Ouigo, plus de deux trains sur trois sur l'axe sud-est TGV Inouï. Aucun impact aujourd'hui sur le réseau TCL.
Lyon Demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
Les urgences vont devoir fermer la nuit, faute de personnel, à l'hôpital Porte du Sud à Vénissieux, et ce dès le 6 mars. Le groupement hospitalier mutualiste GHM des Portes du Sud annonce la fermeture provisoire des urgences de 22h à 8h. Pour faire tourner les urgences 24h sur 24, l'hôpital, qui compte aussi un service maternité, un service de chirurgie et de médecine, a besoin de 13 postes de médecins en équivalent temps plein, mais 6 sont vacants sur 15 équivalents temps plein d'infirmiers. Il en manque également 5. Les heures supplémentaires ne suffisent plus. En moyenne, 90 patients passent par les urgences des Portes du Sud. Avec la fermeture la nuit, 10 patients ne pourront plus être accueillis et devront être dirigés soit vers Lyon Sud, soit vers le Médipôle. Une réouverture à l'automne est envisagée, le temps de recruter. Le groupe socialiste à la région saisit la justice pour obtenir des réponses de Laurent Wauquiez à propos du dîner des sommets. L'opposition socialiste a déposé un recours pour excès de pouvoir au tribunal administratif de Lyon. Laurent Wauquiez refusant toujours de fournir les éléments concernant le nombre et la liste des invités, le nombre de manifestations organisées ou encore le coût de chacune de ces manifestations, mais aussi le détail des délibérations faisant état des dépenses et les lignes budgétaires afférentes.
Lyon Demain, la radio sans pub.
L'accident de voiture de Pierre Palmade, alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne, a remis sur la table un sujet de santé publique, celui des drogues et notamment du chemsex, contraction des mots anglais chemical sex ou sexe sous drogue en français. Cette pratique est apparue dans les pays anglo-saxons il y a une vingtaine d'années et s'est répandue en Europe. Il s'agit d'utiliser des substances psychoactives diverses pour rendre l'acte sexuel plus fort et décupler les sensations, une pratique qui inquiète les professionnels de santé comme Yann Botrel, hypnothérapeute spécialisé en addictologie, adjoint au maire à la ville de Charlie et membre de l'association Élus locaux contre le sida. Il a envoyé une lettre au ministère de la Santé mercredi dernier pour alerter l'État sur les dangers de cette pratique à la fois créatrice de dépendance et déclencheuse de comportements sexuels à risque. Yann Botrel a expliqué sa démarche au micro de notre journaliste Madeleine Clunia.
Les dangers, ils sont nombreux. Il y a d'abord des dangers aigus parce qu'on va utiliser des produits. Alors il n'y a pas de règles, on peut utiliser vraiment plein de choses. Souvent on va retrouver certaines familles comme la cocaïne qu'on connaît bien, qui est un boostant. Il y a ce qu'on appelle le G, le GHB ou GBL, ce que les médias ont appelé la drogue du violeur, mais c'est quelque chose qui est légal, puisque quand on achète du GBL, c'est un solvant qui est utilisé dans l'industrie pour nettoyer les parquets ou nettoyer les jantes de voiture, et donc on s'en procure très facilement. Ça, c'est un pouvoir désinhibant, ça augmente les sensations sexuelles également, et puis on peut utiliser toute une famille qu'on appelle les nouvelles drogues de synthèse. C'est un fléau, ça, depuis quelques années. C'est des drogues artificielles qui sont fabriquées dans des laboratoires, bien souvent en Chine ou dans les Pays-Bas, qui sont censées imiter les effets d'autres d'autres drogues. Et il y a une grande famille là-dedans qu'on appelle les catinones. Les catinones, ça imite la feuille de cat, qui est une substance naturelle qu'on trouve au Moyen-Orient ou en Afrique de l'Est. C'est des amphétamines très puissants. Et ils ont tous des noms un peu barbares. On parle beaucoup de la 3MC en ce moment, qu'on appelle la nouvelle cocaïne, un peu à tort d'ailleurs. Et tous ces produits-là, ben, on va faire des mélanges. Les pratiquants vont faire des mélanges. Et ça peut provoquer alors, des accidents très aigus, des comas, hein, vraiment. Parce que si on mélange le GHB, par exemple, à l'alcool, il peut y avoir vraiment des comas jusqu'au décès. Enfin, il peut y avoir des overdoses sur tous ces produits-là. Ensuite, il y a des risques de contamination aux infections sexuellement transmissibles, puisque malheureusement, bien souvent, les pratiquants oublient les précautions, oublient le préservatif. Donc, on a des contaminations. Ensuite, il y a un risque d'addiction qui est très fort. On voit des gens qui vont devenir dépendants très rapidement des catinones ou des autres substances et on rentre dans un engrenage des gens qui se marginalisent et qui vont ne penser plus qu'à ça. Donc, vraiment, rentre dans cet enfer-là. Il y a des risques de perturbation de la sexualité aussi, parce que quand on consomme du sexe comme ça sous produit, après retrouver une sexualité normale, parfois c'est un petit peu compliqué. Quand un chemsexeur vous décrit son acte sexuel, vous avez l'impression d'être dans un truc qui est extraordinaire. Ils le vivent vraiment comme ça. Et c'est tout le danger, parce que du coup, on devient à la fois addict à ces produits, à la fois addict aussi au chemsexe en lui-même, à ce comportement. Et puis aussi des vrais risques d'agression sexuelle, de viol, puisque quand on est sous substance, se pose quand même la question du consentement à certains moments. Et on voit des gens qui, à leur tour, peuvent être soit victimes, soit agresseurs, puisqu'on perd complètement le contrôle de soi-même.
Et la redescente, enfin le moment où on retourne à la réalité, du coup, après un chemsex, c'est violent?
Oui, ça c'est un point clé, c'est que les descentes de chemsex sont souvent très très difficiles sur plusieurs jours, que ce soit la cocaïne ou les catinones. Et c'est à ce moment-là, on a des gens qui sont en dépression vraiment aiguë, très sévère, et c'est là aussi où il y a des risques de suicide qui sont très importants. Et puis ce besoin de reconsommer derrière, ou parfois de prendre d'autres produits pour atténuer la descente, donc on rentre dans un engrenage qui est catastrophique.
Et justement, le problème, c'est que c'est assez facile de s'en procurer.
Oui, c'est tout le drame de cette histoire, parce que le chemsex, en fait, s'est potentialisé sur trois facteurs, c'est-à-dire à la fois, il y a eu l'essor d'Internet, la facilité de se procurer justement ces produits sur Internet très facilement et avec à moindre frais, c'est très, très peu coûteux, et puis il y a eu l'essor aussi des sites de rencontres géolocalisés. Et tout ça a fait que ça a fait cette espèce de mélange qui fait que ça a favorisé les chemsex et vraiment à moindre coût. Et c'est tout le drame parce qu'en plus, il n'y a même plus besoin d'aller sur un point de deal, par exemple, ce qui n'était pas le cas avant.
D'accord. Et donc là, ce que vous voulez faire, c'est justement alerter les pouvoirs publics pour montrer qu'il y a vraiment ce souci alors qu'on n'en parle pas énormément.
L'alerte est très importante parce que on a catégorisé le chemsex comme une pratique chez les homosexuels masculins, ce qui est le cas en majeure partie, c'est clair. Par contre, il ne faut pas sous-estimer la porosité du phénomène et c'est là où les professionnels de santé alerte, c'est que on sait aujourd'hui qu'il y a notamment des étudiants qui ont pratiqué le chemsex, des filles, des hétérosexuels, parfois sans identifier forcément le terme chemsex, mais moi j'ai en consultation parfois des gens au bout de 2-3 séances qui vont me dire, des jeunes filles, ben en fait j'ai pratiqué avec de la cocaïne, avec il s'est passé ça, et après en développant on s'aperçoit qu'il y a ce genre de pratique, et c'est là où on alerte parce qu'on sait qu'il y a potentiellement beaucoup de décès qui sont pas catégorisés comme des chemsex à tort, et il faut absolument qu'il y ait d'abord un point de départ, c'est-à-dire une grande enquête épidémiologique au point de vue national et pas que sur les communautés homosexuelles.
Oui, parce que du coup, ça touche vraiment tout le monde, surtout les jeunes.
Principalement, la communauté homosexuelle, mais ça touche aussi le milieu étudiant. Il y a des études qui le montrent. Il y a eu une étude l'année dernière quand même qui a été chapeautée par les Hospices de Lyon, qui ont interrogé de manière anonyme un millier de chemsexeurs. Et on sait que dans ces 1000 chemsexeurs, il y avait 16% de femmes et 6% d'hétérosexuels. On peut pas nier le fait qu'il y a une porosité du phénomène et qu'il risque d'y avoir un effet de mode chez la population étudiante, notamment du faible coût de ces produits.
Le but du fait que vous avez pris la parole et que vous continuez de le faire au quotidien, c'est pour sensibiliser les jeunes à ces dangers-là.
C'est important d'alerter aussi parce qu'on a tendance des fois à stigmatiser et on s'imagine que les chemsexeurs c'est lié à une certaine population. L'actualité récente avec l'accident de Pierre Palmade, j'ai peur que justement on imagine que c'est réservé à une certaine caste, à une certaine population, alors que pas du tout. Il faut que les parents sachent que lorsqu'on a des ados à la maison, c'est très facile de se faire embarquer sur ce genre de choses, et une fois suffit pour qu'il se passe un drame. Donc ça peut vraiment arriver à tout le monde. Tous les pratiquants de chemsex ne sont pas des gens qui sont délurés et complètement hors cadre. Il y a des gens de tout niveau socio-culturel, et puis l'addiction en général, on n'est jamais à l'abri d'avoir un coup dur et de tomber un jour, de se réfugier dans des produits. Donc il y a vraiment un danger de santé publique sur le chemsex.
Concrètement, qu'est-ce que vous voudriez que les pouvoirs publics fassent pour limiter ce nombre de chemsexeurs?
Moi je crois beaucoup à la prévention. On a parfois tendance à vouloir être dans le tout répressif. Ça a ses limites, surtout pour les drogues de synthèse, parce que quand une substance est classée stupéfiante, le laboratoire a changé la molécule et puis hop, ça repart. La prévention est très importante et commencer par le commencement, c'est-à-dire faire une grande étude épidémiologique pour savoir où on en est précisément sur toutes les populations, en milieu urbain, en milieu rural. Je pense qu'on va tomber de nos chaises quand on va vraiment avoir une étude épidémiologique fiable. Et puis de là, il faut faire des actions et ça passe par la prévention, évidemment, beaucoup plus large que dans les milieux homosexuels, aussi dans les milieux étudiants. Il faut mettre des moyens dans l'addiction en général. Et puis aussi former les magistrats et les policiers. C'était prévu pendant le Covid, justement. Bon, ça avait été un peu ajourné. Mais c'est important que les policiers puissent identifier lorsqu'il y a des décès qui sont liés au chemsex, parce qu'il y a beaucoup de tabous encore là-dessus.
Pour les chemsexeurs, justement, l'arrêt de tout ça, ça se passe comme pour n'importe quelle autre addiction ?
Oui, c'est une question qui est importante parce qu'on voit des fois des professionnels de santé qui sont un peu effrayés parce qu'il y a une multitude de produits, alors qu'en fait, finalement, le traitement est le même. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez utilisé une béquille qui vous fait plus de mal que de bien, celle-là, on l'arrête, et maintenant, on va réapprendre à faire autre chose. C'est là tout l'enjeu, et de toutes les addictions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on règle ces problèmes de fond, qui sont la difficulté à gérer les émotions ou autre chose, eh bien, on ne rechute pas. Et le parcours d'un addict, il n'est jamais très rectiligne. La rechute fait souvent partie aussi de la maladie. Donc nous on accompagne. Et l'addictologue, c'est surtout faire germer la motivation. Et puis parfois le déni aussi, parce qu'il y a des gens qui sont dans le déni très longtemps, mais faire émerger cette envie d'arrêter.
Yann Botrel, hypnothérapeute spécialisé en addictologie, au micro de Madeleine Clunia. Basket, la Coupe de France, l'ASVEL se qualifie sur le fil face à Roanne. L'équipe villeurbanneuse s'est qualifiée in extremis pour les quarts de finale en battant la Chorale 89-88. Pour autant, l'ASVEL n'a pas du tout rassuré avant la Leaders Cup programmée en fin de semaine à Saint-Chamond. OL Group affiche moins 60 millions d'euros cette année contre moins 27 l'année précédente. OL Group justifie cette perte par la hausse du prix de l'énergie, des charges de personnel et également son absence en Coupe d'Europe. Le club affiche pourtant des ventes en hausse cette année. Toutes les lignes de revenus sont en progression, assure le groupe, avec 135 millions d'euros. OL Group met surtout en avant les concerts au Groupama Stadium, comme le concert des Rolling Stones ou du groupe de métal allemand Rammstein. Ils ont réuni au total plus de 150 000 personnes. Le jeune défenseur latéral gauche Laziri, âgé de 19 ans, a prolongé son contrat avec l'OL jusqu'en juin 2017. Le contrat initial portait jusqu'à 2026. Laziri figurait sur la feuille de match de l'équipe professionnelle mercredi dernier lors de la venue de Lille en 8e de finale de la Coupe de France. Le jeune défenseur s'est entraîné avec le groupe professionnel hier au Groupama Training Center. Un souci de santé pour Laurent Blanc, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais souffre d'une pneumopathie. Franck Passy dirige les séances d'entraînement provisoirement. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Excellente journée.